Les Trans-Sevenol 26e édition, c'est 22 et 23 juillet à Sumen. Un festival éclectique et indépendant, avec en journée des concerts, du théâtre de rue, du cirque, des projections, des débats et des plateaux radio. Compagnie L'Art Osé, Braquage Sonore, Oxuput, le théâtre groupe, La Nour, Charcoal and Sugar, Zictamu, Lula Health, le Coco Fanfare Club et Ondaya. C'est gratuit. En soirée, des concerts et guinguettes au cœur du parc Lucie Aubrac avec Essa Yasuke, Dodeline, Da Trekaz, Suzanne Bellobre, MPL et Safé. Pensez à prendre vos billets sur lestrans.org/labilletterie. Éco-responsable et engagé, les Trans-Sevenol, deux jours de concerts, spectacles et rencontres, à Sumen les 22 et 23 juillet.
Bonjour à toutes et à tous, auditrices et auditeurs. Eh bien, Radio Escapade est toujours installée ici sur le plan à Sumen pour les Trans-Sevenol. On redit quand même que c'est la 26e édition. Et bien sûr, Radio Escapade est toujours avec ses copines radio associatives. On a toujours Radio Bartas, Radio Système et Radio Sommière. Et on va démarrer tout de suite cette introduction avec Ben et Ben, respectivement Bartas et Sommière.
Le Gard et la Lozère réunis en un. Quoi.
C'est ça. Et on a toujours Fab et Arthur qui sont en technique, hein, qui assurent tout le plateau. Bon, alors les gars, hier soir, donc première soirée, les Trans-Sevenol, hein,
alors,
trois
chemin,
groupes. On va faire un petit retour sur la soirée d'hier.
Ouais.
Allez. Allons-y.
Franchement, bah écoute, l'OM a très bien joué et on est très contents. Non, très sincèrement, très bon plateau hier soir musicalement. C'était juste incroyable. On s'est pris une bonne claque dans la tronche. Et malgré le désistement d'une artiste qui n'a pas pu venir pour des raisons médicales et qui a été remplacée par l'excellent Dabrazer qui oui. nous venait de set, qui nous a mais alors infligé mais une positivité incroyable.
Mais il avait une sacrée énergie hier sur le plateau radio.
Énergie de fou, flow de fou. Et puis alors franchement, c'est le petit-fils de Relsan, on a l'impression. C'est un peu branleur comme ça, mais très sympa, avec une bonne vibe. Et puis il a fait vibrer le public, hein, tout simplement. Les Trans-Sevenol ont bougé, vibré. Sumen a été un volcan.
Incroyable. Alors une soirée complète, hein, déjà, il faut le dire. Hein, plus de 1000 personnes sur site. Et lui a été d'une générosité absolument incroyable. Il a ouvert la soirée. En fait, il a offert un spectacle qui était quand même... il a pris le train en marche, hein, et il a fait un show absolument incroyable, avec le sourire à la patate tout le temps. Et ça me fait penser à Némir, qui s'est produit l'année dernière aussi, qui était un artiste moi, que j'avais écouté et que je n'avais pas forcément accroché quand j'écoutais. Mais alors sur scène, c'est de la transcendance. C'est tout ce qu'il faut dans ce genre de festival.
Franchement, Dabrazer, merci, parce que ça nous a bien fait bouger les fesses pour avoir dans la foulée une espèce de créolité, une espèce de zouk love dingue avec Daudeline de Lyon qui nous ont fait kiffer, zouker, danser, créole et tout. C'était trop bien avec les sacs.
C'est monté tout en douceur.
C'est monté en douceur. Puis après, on a commencé à partir loin. On était dans les îles et compagnie. T'as même plus l'impression d'être à Sumen. T'étais loin.
Ils ont assuré. J'ai trouvé ça super pro. Peut-être qu'il manquait un petit brin de folie en fait sur ce concert, moi que j'ai ressenti, mais je peux lâcher ou masquer la plume.
On est sur Escapade.
Et non, c'était vraiment, vraiment génial, des excellents musiciens. On a passé un super moment. Peut-être ce petit brin de folie qui a manqué, mais qui a fini, toi, sur le concert que j'ai pas vu et où tu m'as dit.
Là, ça a été la bombe de la soirée, c'était Tatrikaz. Alors là, ça a été. Mais alors, les petits parigots, là, ils nous ont mis le feu. T'avais l'impression, je sais pas, c'est d'être en plein milieu du plateau du Larzac sur une grosse technival, tu vois. Et t'avais le public qui était en folie, c'était dingue, des mecs qui slidaient sur le public et tout, c'était complètement fou. On a vécu quelque chose, franchement, d'incroyable au Trans-Sevenol et on s'y attendait pas. On s'est dit dans la latence, après confinement, il y aura moins de monde, il y aura moins de machin. Et en fait, le monde était là. Il y a eu un public de dingue et tout, c'était franchement fou.
De bonne augure en tout cas pour la soirée qui s'annonce ce soir.
Super, merci beaucoup les gars. Alors on a été rejoints sur le plateau radio par Florent, qui est le réalisateur du documentaire La Cantatrice Chaume, donc épisode 2, hein, qui a été présenté hier à la salle Ferrier à 17h30 et qui le sera encore aujourd'hui à 17h, toujours à la salle Ferrier. Salut Florent.
Bonjour à tout le monde.
Alors j'ai envie d'abord de démarrer, peut-être tu peux nous expliquer pourquoi ces sujets, parce que tu parles dans ton documentaire beaucoup d'inégalités dans les musiques actuelles. Alors, l'inégalité salariale, aussi homme-femme. Voilà, pourquoi un petit peu ce sujet ? Est-ce que c'est déjà de ton travail dès le début ?
Oui, alors effectivement, on a voulu aborder ce sujet-là, qu'on a voulu traiter en 3 épisodes distincts. Comme tu l'as dit, là, c'est le 2e épisode. Le 1er épisode, il parle des artistes, plutôt à la musique, au chant, les artistes qu'on voit sur scène. On a voulu aussi voir ce qui se passait de l'autre côté, de l'autre côté de la scène, dans les coulisses, avec à la technique, à la programmation, à la direction de salle, dans le 2e épisode. Et dans le 3e épisode, on voudrait aborder aussi la question des publics. Et effectivement, on s'est dit qu'on voulait aborder ce sujet-là parce que le monde de la culture, globalement, et le monde des musiques actuelles, on pense que c'est un milieu qui est plutôt tolérant, qui est plutôt ouvert. Et on s'aperçoit malheureusement que quand on regarde, on a fait en 2022, on a regardé les programmations des plus grands festivals en France, les femmes lead ou en tout cas dans les groupes mixtes, c'est 15% en 2022. Il y a une des personnes qu'on a
Nous sommes de retour en direct, puisque nous avons eu une coupure à peu près de 10 minutes, Ben, il me semble. Et donc, on était avec Florent, donc, qui est le réalisateur du documentaire La Cantatrice Chaume. Alors, justement, on était en train de parler sur du sujet de ton documentaire. Donc, tu as parlé de l'épisode 1, qui était vraiment plus sur les artistes. Et là, l'épisode 2.
Épisode 2, effectivement, sur toutes les personnes à la technique, les personnes en fait derrière la scène, que ce soit la technique, que ce soit la programmation, la communication, toutes ces personnes qui rendent le spectacle possible. On s'aperçoit en fait que les chiffres sont à peu près identiques. À la technique, on a encore 5% de femmes, 17% pour les dirigeantes de scènes de musique actuelles, les SMAC, sachant que c'est des scènes qui sont subventionnées. Donc il y a un voilà, là justement où on pourrait se dire il y a un levier public qui pourrait faire effet, on est encore bien en deçà d'une parité ou en tout cas d'une représentation plus large et plus variée.
Déjà de par ce spectacle, c'est un spectacle, hein, on est d'accord.
C'est, hein, un documentaire.
Un documentaire, pardon, excuse-moi. Excuse-moi, parce qu'avec la coupure, là, j'ai le cerveau qui a coupé en même temps. Alors donc, oui, non, je disais par rapport à ce spectacle-là, ce qui est très intéressant, moi j'ai travaillé un peu dans le milieu du cinéma en dilettante, et justement de mettre en avant les gens qui sont dans l'ombre. C'est hyper important. Nous, dans le cinéma, on avait plein enfin, dans les génériques de fin, en fait, t'as toujours les réalisateurs, les scripts, les machins, ceci, cela. Mais t'as un pléthore de personnel qui sont là pour faire que le film soit là. Et en fait, on a jamais ces gens-là, tu vois. C'est, d'ailleurs, j'avais écrit une petite sitcom qui s'appelait T'auras pas la palme, justement pour tous ces gens-là qui travaillent dans l'ombre, entre guillemets. Et dans le spectacle vivant, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, très souvent, on voit l'artiste, on voit les musiciens, on voit les lumières, etc. Mais on voit pas l'ingénieur qui est derrière en train de switcher, on voit pas toute la prod, les attachés de production. Nous, on a une attachée de presse, par exemple, avec nous qui travaille dans l'ombre, etc. C'est des gens qui sont souvent mis en second plan, alors qu'ils sont indispensables dans le spectacle vivant, et qui plus est, les femmes. Les femmes, vraiment, c'est vrai que c'est quelqu'un, c'est vraiment, c'est un peu le désert de Gobi. Et il faut absolument que les femmes, alors nous, on a la chance d'avoir Siam avec nous sur ce plateau et qui revendique depuis des années son travail, etc., par son travail, pas par le fait qu'elle soit une femme, quoi. Et ça, c'est super important. Et il en faut plus. Et c'est vrai que ce genre de documentaires, j'espère, vont aider aussi la jeune génération, la Gen Z, comme on l'appelle, à avancer là-dessus. Et j'espère que ça va faire venir plus de nanas et qui doivent aller de l'avant par rapport à ça. Et est-ce qu'il y a un côté pédagogique aussi dans ce documentaire ?
Complètement. On a commencé aussi à diffuser ce documentaire dans les collèges, dans les lycées, aussi pour ouvrir des portes. En fait, notre documentaire, on le perçoit vraiment comme une ouverture d'une porte. C'est pas, c'est en 30-35 minutes. C'est pas, on peut pas approfondir un sujet. Il y a plein de personnes qui le font de façon beaucoup plus intéressante que ce que nous on fait, que ce soit des personnes militantes ou des personnes aussi des chercheurs, des chercheuses sur ces sujets-là. Donc nous, on veut un peu ouvrir des portes et ouvrir les champs des possibles. Donc quand on va dans les collèges, quand on va dans les lycées, c'est dire. Si en fait ça vous intéresse, si vous allez régulièrement voir des concerts et que vous auriez bien aimé travailler dans une salle de concert, eh ben vous pouvez peut-être vous diriger vers un métier de la technique, vous pouvez peut-être vous diriger vers un métier de programmation, de sélection, vous pouvez peut-être commencer chez vous. Vous aimez bien sélectionner, faire des playlists, et ben vous pouvez peut-être ça peut être après passer dans un champ professionnel, ou en tout cas essayer d'en vivre de sa passion.
Florent, dans le texte qui présente ton documentaire dans le programme des Transévenols, la dernière question est: quel outil pour limiter et définitivement supprimer ces inégalités? Est-ce que le documentaire apporte peut-être quelques réponses ou pas du tout? Est-ce que tu peux, sans forcément nous révéler tout ton documentaire, hein, parce que voilà, on peut le voir à la salle Ferrier tout à l'heure à 17h.
Mais là encore, c'est vraiment l'idée de cette porte qu'on a voulu ouvrir sur plein de sujets. En fait, on a voulu faire le documentaire en deux parties. Une première partie sur les constats, où on en est maintenant, quels sont les chiffres concrets et qu'est-ce qui explique cette situation d'une représentativité, qui est beaucoup moins importante pour les femmes. Et la deuxième partie sur les solutions qui commencent à être mises en place. Il y a des initiatives, il y en a plein en fait. Il y a She Said So, il y a Mewen, il y a WA, la plateforme WA qui regroupe sur Internet plein d'initiatives pour aborder ce sujet-là et le traiter. Donc voilà, nous, on a voulu juste faire un petit focus sur toutes ces différentes possibilités qui existent, le mentorat, les réseaux, les postures professionnelles aussi qui doivent évoluer pour être plus accueillantes et pas favoriser la cooptation des hommes qui s'entendraient bien entre les hommes. Donc du coup, voilà, c'est vraiment...
On s'entend bien avec les femmes. Hein, quand même.
Bah. Allez, Ben, une dernière question.
Une dernière question, parce que vous avez diffusé, je ne pensais jamais dire ce nom, vous l'avez diffusé à Saint-du-Nord, avec Lorraine Moitier, qui a été la bassiste de Jennifer, je pense notamment, et Bougé Rock, une association que j'apprécie beaucoup dans le Nord. C'est un fait, ça me permet de les saluer, mais c'est un fait de confronter les adolescents, en fait, adolescentes, à la réalité du métier, en fait, et à ce qu'elles vivent. Jennifer, on en pense ce qu'on en veut au niveau artistique, n'empêche qu'elle a fait toute une tournée rien qu'avec des femmes, etc., et c'est absolument génial. Ça veut dire que on va essayer de terminer sur une note positive. Est-ce que ça avance quand même? Et est-ce qu'on se dit que finalement, votre documentaire et d'autres personnes qui se bougent, on va aller vers le bon et ça va aller dans les 2-3 années qui arrivent?
La matière, elle est là. Les possibilités, elles sont présentes. Nous, on a rencontré une multitude de personnes qui ont des initiatives vraiment super intéressantes. Et on a fait à chaque fois des interviews qui duraient 1h30. Où toutes les interviews étaient intéressantes du début à la fin, et à la fin, on est toujours ressorti en disant « mais oui, mais ça, on peut le faire ». Et en fait, il y a plein d'endroits où on peut agir. À la fois, on voit qu'il y a le problème, il est complexe, il y a plein de strates différentes, mais ça veut dire qu'aussi, il y a plein de solutions différentes à toutes ces strates-là. Quand on est public, on peut agir en fonction de ce qu'on écoute. Quand on est jeune, on peut choisir aussi vers là où on se positionne. Il y a plein de possibilités. Donc oui, on espère que oui, mais il faut saisir de toute cette matière qui existe.
On aurait adoré faire 1h30 d'interview avec toi. Ouais. Franchement, du
fond du cœur. Désolé pour cette coupure.
Merci Florent d'être venu nous parler de ton documentaire La cantatrice Chaume. Je rappelle que donc la projection est à 17h à la salle Ferrier. Merci.
Et juste, je précise rapidement, on est 3 personnes à avoir co-réalisé ce documentaire. Manon Cossignac et Germain Bachet avec moi. Donc,
super, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci. Alors là, on va partir en musique avec avec Coco Fanfare, et qui sont là prêts à nous rejoindre sur le plateau. Allez, c'est parti.
Allez, Coco Fanfare. Pouya, 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 c'était la Coco Fanfare Club, là. Comment ils vont, les Coco Fanfare, avec Hugo et Maxime, hein, c'est ça, je dis pas de bêtises. Ah, on vous entend pas. Oh, mais dit, c'est dit non aujourd'hui. Ah.
Oui.
1, 2, 3, 4.
Ici Hugo Platine.
Hugo Platine en vert et Maxime en rose.
Et voilà, mon micro marche pas.
Ah, si, ça y est. Si, marche ton micro, mon gars, mon gars.
Super.
Bonjour à vous, bienvenue à vous sur ce plateau des Transévenol.
Merci, bonjour.
Une petite présentation vite fait des Coco Fanfare. Vous nous racontez un peu d'où vous venez, ce que vous faites.
Alors la Coco, c'est une fanfare montpellierenne à la base. On est issu c'est une fanfare étudiante au tout début. Et en fait, on s'est jamais quitté. Et ça fait 17 ans.
Oh. Ça vient du Festival des Fanfares là, qui est à Montpellier ?
Pas non.
Originellement, c'est une fanfare étudiante, ouais.
D'accord.
D'une école d'ingé de Montpellier.
Ah, j'aurais cru Paulva, moi, tu vois.
Ah non.
Ah. Non. Il n'y a pas du babos là dans l'équipe.
En université,
il y a du matos là.
Il y a rarement des fanfares en université. C'est plutôt en école d'ingé.
C'est vrai.
En France, je dirais.
C'est vrai. Donc, vous venez de Montpellier. Vous êtes combien sur scène, en tout ?
On n'a jamais su répondre à cette question.
Ah bah écoute, next.
Alors, on veut dire, historiquement, on est à peu près entre 15 et 20 sur scène. Ça peut monter à 30. C'est là où.
J'aime bien comme ils regardent.
Tout à l'heure, ils étaient une vingtaine, moi, voilà. Je dirais. Hein, parce qu'ils ont démarré ici, à côté du plateau radio.
Moi, j'ai compté 82, tu vois.
Ça, c'est depuis la création.
Ah, voilà.
Et non. Ils sonnent tous juste, en plus. Hein.
Il paraît.
Ouais, et du coup, on vous a entendu là tout à l'heure, c'était génial, vous avez bien ambiancé cette place du plein. On vous a entendu faire des reprises de Stromae, des trucs hyper, hyper connus, grand public. Et comment ça se passe? Il y a quelqu'un qui écrit les arrangements, comment ça se passe? Vous décidez ensemble du choix des morceaux et puis après vous écrivez les arrangements?
Alors il y a tout un process pour rentrer de nouveaux morceaux, mais l'idée c'est qu'on... On aime beaucoup danser, on aime beaucoup être actif sur la scène et donc on a un répertoire qui permet ce genre de loisirs. Et c'est du coup au sein de la Coco, au sein de l'association, qu'on arrange les morceaux qu'on a envie de jouer, on les propose, on les essaye et on juge ensemble collectivement du coup si oui ou non il doit se rajouter au répertoire.
Et ça vous amuse quelque part de choisir justement des artistes hyper connus, des morceaux, des grands standards de variété internationale qui ont cartonné? C'est un choix délibéré, vous essayez d'amener ça à contresens, un côté un peu dérision peut-être?
Non, du tout, non, c'est volontaire de notre part parce qu'on veut faire danser les gens, clairement, et on choisit un répertoire plutôt musique actuelle, où on est sûr qu'on touche un peu tous les publics. Même non averti, et en principal, je dirais même non averti, pour qu'ils puissent. Ah ouais, c'est vrai, on reconnaît l'air. Ouais, oui, c'est ça. Ouais, du coup, c'est sympa de voir.
On a vu les jeunes publics, les enfants, ils ont adoré. Hein, ouais. Ils étaient devant. Ils étaient... Donc, c'est bien, ça permet de toucher vraiment un public très, très large.
Mm. On parlait hier avec la Batucada qui est présente ici. Voilà. Et l'instrument percussif, en fait, est abordable. Voilà. Peut-être moins l'hélicon, le sous-bassophone ou la trompette.
On n'a pas d'hélicon.
C'est pas un hélicon ?
On a deux sous-bassophones, pour le coup.
C'est
y a
des
pas
sous-bassophones.
L'hélicon, c'est vraiment le sous-bas des pays de l'Est. Il lui manque une petite partie. Il est fait vraiment pour pouetter net. Le sous-bas, c'est aussi pour faire des tenues.
Merveilleux. Ah ouais, non, mais voilà. Ma culture en fanfare, tu vois. Mais ceci dit, est-ce que les instruments avant sont un peu moins accessibles que les instruments percussifs? Et comment ça se passe? Hier, on parlait justement de l'accessibilité à la musique, à l'instrument, parlons des cuivres ou des instruments, enfin des bois, hein, puisque le saxophone est un bois. Absolument. Je viens de Florac, mais il y a deux, trois trucs que je sais. comment ça se passe en tout cas au niveau de l'accessibilité aux instruments et justement aux débutants, parce que vous êtes une fanfare absolument incroyable qui sonne super juste, on ne voit pas ça. Enfin voilà, vous avez compris ma question. Comment ça s'est passé chez vous, puisque vous venez du milieu studentin?
Bah, il faut avoir quand même en tête que être musicien, c'est quand même quelque chose d'accessible, mais il y a souvent une partie de la population qui fait ça depuis gamin, et ça joue aussi à la fanfare. Mais régulièrement, on a des propositions, des demandes d'intégration du coup de personnes qui ont appris un instrument sur le tas. Et en fait, il n'y a pas vraiment de souci. À partir du moment là où il y a un travail à la maison, là où il y a une implication au sein du collectif, etc., en général, ça ne pose pas vraiment de souci. Puis on progresse chacun un peu à notre vitesse, à notre échelle. Et en fait, dans la masse, c'est tout le monde se tire vers le haut et c'est vraiment agréable.
Petite question vite fait. Juste, on a eu un documentaire tout à l'heure avec un collègue qui nous parlait de la parité dans le spectacle vivant, etc. Est-ce que vous arrivez à avoir une certaine forme de parité aussi dans votre fanfare?
C'est en général quand il y a des gens qui viennent se présenter à notre fanfare après un set, par mail ou ça, on fait attention, en effet. Au moment du recrutement, on essaye, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on a...
Parce qu'on a deux bonhommes en face de nous, donc je pose la question.
Oui, mais moi, je témoigne, tout à l'heure, il y avait beaucoup de filles.
Ah, Siam a regardé, tu vois.
Ah oui, j'ai regardé.
Effectivement, cette réputation d'avoir un peu ce souci de la mixité, de la bienveillance au sein du groupe, et je pense que c'est un exemple à suivre.
Oui. Dans la mesure du possible, évidemment, à chaque fois, c'est le côté en fonction de qui se présente en recrutement. Est-ce qu'on a besoin de ce recrutement-là ou pas? Voilà, c'est toujours pareil.
Et est-ce que vous militez pour le retour de la méduse et des crocs au niveau vestimentaire?
Aujourd'hui, je ne les ai pas mises, mais complètement. Complètement. Mais c'est pas, il n'y a pas de retour, elle n'est jamais partie. Hein.
Je dis ça pour les auditeurs qui nous écoutent. J'espère que vous aurez l'occasion de les voir, parce que musicalement, c'est top. Mais au niveau des couleurs, on n'en prend pas la gueule. Vous êtes vraiment au top bizarre, au niveau des looks et tout. C'est pour ça que je faisais un petit clin d'œil à la méduse, parce que voilà.
On aime à dire
un bon clin d'œil. J'invite tous les auditeurs d'ailleurs, ils peuvent venir vous voir encore ce soir, vous jouez. Ouais. C'est ça. Départ, barre de la place. Donc il n'est jamais trop tard. Rejoignez-nous
à 18h.
Voilà, pour voir la Coco Fanfare Club. C'est ça.
Alors c'est le Coco Fanfare Club.
Le. Ou la Coco Fanfare. Bien que je fasse une.
Moi je vais dire la Coco Fanfare Club.
Je trouve que ça sonne mieux la Coco Fanfare. Hein,
on est d'accord. Fait deux jours.
Ça fait un peu créole.
Elle a compris.
Mais il vient d'où ce nom d'ailleurs?
Là on n'est pas les mieux.
On pas les mieux placés, mais.
C'était en 1910. Voilà, ok. S'inventer une légende.
Il y a eu une peluche.
Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Il y a eu une peluche, ouais. Il y a eu une peluche d'un oiseau, et puis je pense que c'est parti de là. Sûrement dans une soirée légèrement éméchée. Et après, les idées volent.
Une soirée Rasmus au Macadam.
Tu vas voir qu'on va trouver des super noms de radio avec ça. Les soirées éméchées, on connaît.
Au Macumba Club.
Alors lui, 1984, il avait 17 ans. Tu vois. Siam.
Ok, merci beaucoup Maxime et Hugo
d'être venus
sur le plateau.
Merci à vous.
Là, on va demander à Christelle et Fred donc de la compagnie La Rosée de prendre votre place, en fait, puisqu'on va parler du spectacle Gloria.
Gloria.
Donc Gloria qu'on peut découvrir à 17h30 sur la place du Plan, ici, au Trans-Sévenol. Je rappelle que vous êtes toujours à l'écoute sur Radio Escapade, sur le 104.1, le 103.3, le 102.0, sur Radio Système, le 93.7, sur Barthas le 107, et par contre sur Sommières ce sera en différé, mais c'est quand même
102.9. Mais nous on est toujours en différé. Ouais.
Pourquoi c'est en différé sur Sommières?
Parce qu'en fait,
ils sont déjà sur un autre festival.
Ils sont sur Chanac, festival du
commence
monde,
pas, Ben.
Est-ce que je peux faire un petit big up à mon copain Erwan?
Mais bien sûr.
Voilà, je trinque à ta santé, mon Erwan.
On t'embrasse, Erwan.
Alors, Christelle et Fred sont installés. Bonjour à tous les deux.
Sans transition.
Voilà, sans transition.
On nous a dit qu'il faut y aller vite, parce qu'il n'y aura pas de musique. Alors, on s'est jeté sur les deux qui étaient devant nous. On leur a arraché le micro et on est en place. C'est bon.
Vous avez assuré.
D'ailleurs,
parfait.
T'as blessé Hugues derrière.
Mais c'est pas grave.
3 jours d'ITT quand même.
Ça va? Ça va, Hugues? Bon, il a l'air d'aller très bien. Bonjour, Radio Escapade. Ça va, les copains?
Ça va très, très bien. Ouais.
C'est cool.
Christelle ou c'est Fred, qui veut nous présenter un petit peu, au moins rapidement, la compagnie avant de parler du spectacle?
Christelle, alors.
La compagnie, elle s'appelle la compagnie La Rosée, c'est une super compagnie.
Oui.
Ils font un travail de fou, je veux dire, depuis le début. Moi, je les ai suivis depuis le début, parce que c'est moi qui les ai montés.
Oui.
Et alors, c'est un travail tout le temps formidable. Je veux dire, c'est pas parce que je suis dedans, vraiment, mais c'est
non,
vraiment
mais je confirme.
Un travail exceptionnel.
Oui, oui, oui. Ouais, ouais.
Et une compagnie de théâtre de rue qui fait vraiment un boulot. Moi, j'ai jamais vu ça ailleurs.
Qui cartonne.
Je peux pas dire mieux. Comment je peux présenter mieux ma compagnie à part dire qu'elle est formidable? Je vois pas autre chose.
Je suis d'accord.
Hein, elle est formidable, Christelle. Voilà. Moi, je trouve.
Voilà. Moi, si c'est sur le bon coin, j'achète direct.
Elle est pas encore à vendre, mais il reste encore quelques années avant la retraite, mais j'y pense. Bien que tu risques d'être peut-être à la retraite avant moi, on ne sait pas. On verra. On en rediscute. Pour l'instant, elle n'est pas à vendre. Elle est à moi.
Alors, le spectacle Gloria.
Voilà.
Est-ce que c'est la dernière création de la compagnie?
Oui, absolument. Oui. C'est une nouvelle nouveauté qui arrive.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu quand même du spectacle?
C'est vachement dur.
À part tragédie, comédie déjà.
Alors, on a dit comédie, tragique parce qu'on ne savait pas trop quoi dire en réalité.
Ouais.
C'est toujours hyper dur de mettre un genre. Qu'est-ce qu'on fait? Du clown, de l'impro, du stand-up, du théâtre, qu'est-ce qu'on fait ? On est là devant des gens, on fait une proposition, ils la prennent. Et on essaye de faire un voyage ensemble, mais après dire qu'est-ce que c'est, on n'en sait rien.
C'est du spectacle vivant.
C'est du spectacle vivant, excellent. Mais si en genre on écrit spectacle vivant, les gens vont dire ben ça on a gombris, qu'on va pas être à la télé.
On s'en fout, ça suffit.
Ouais, moi je suis d'accord qu'on s'en fout.
Voilà. Il faut qu'ils viennent.
Moi c'est pour ça que je sais pas en parler, parce que déjà je l'ai pas vu, premièrement. je rêverais de voir ce spectacle, moi. Et qu'est-ce qu'on peut rédiger ? Comment le présenter ?
17h30. Hein.
17h30.
Voilà, 17h30, ça c'est sûr.
Ça c'est une bonne présentation.
Ça c'est
17h30.
Sur la place du plan.
Ouais. Bah, la présentation, c'est venez le voir et puis vous, après, vous venez à la radio en parler. Moi, je pense que c'est ça le mieux.
La compagnie a toujours fait du théâtre de rue, hein, il me semble.
Absolument, oui. Ouais, on aime ça. On est un peu claustro, en fait, dans la compagnie. Donc, on aime bien la rue.
Ouais. Et Fred, alors ?
Alors, moi,
Fred, qu'est-ce que tu fais dans la compagnie ?
Moi, je me suis greffé dans la compagnie sur ce spectacle et je fais de la musique, en fait, la guitare, en direct. Voilà. Donc, avant, c'était Pierre-Jean qui travaillait avec elle. Mais là, on voulait de la musique sur ce spectacle. Donc, c'était l'occasion d'intégrer La Rosée, dont je suis fier.
Et on part sur un peu un conte de fées, c'est ça ?
Alors, le conte de fées, c'est un prétexte, quand même. Hein. L'idée de ce spectacle, c'est de se faire enlever sur scène.
Okay.
Voilà, c'est un personnage qui vient pour se faire enlever. C'est son rêve.
Kidnappe.
Enlever comme une princesse.
Romantique, voilà.
Disons que c'est pas se faire dégager de la scène, si vous voulez, l'histoire. C'est de se faire enlever un truc un peu beau comme ça, un peu bucolique, féerique, un peu magnifique. Et donc c'est l'idée. Et pour se faire enlever, comment on fait à part l'idée, c'est de se faire enlever comme une princesse. Donc il y a un conte de fées qui commence à être raconté, développé pour trouver le prince. Il y a du Mesbas là, qu'est-ce qu'il y a ? Ils discutent
non,
entre eux, ils se font des
signes. On se fait des
la radio, vous avez du bol de faire de la radio parce que alors, visuellement, c'est un carnage. Et en fait, ils posent des questions, ils n'écoutent pas les réponses. Moi,
Si, je voulais réagir, mais Ben veut réagir aussi, alors, donc on se lève le doigt là.
D'accord.
On se bat en fait pour réagir tout de suite à.
Génial.
Et vive la radio.
Un battle de micro.
Et vive la radio non filmée pour qu'on ne voit pas ce genre de choses.
Non, surtout quand tu vois nos gueules.
Bien en plus.
Non, pas tout le monde. Il y en a qui ont des physiques de télé, ça va. Pas tout le monde.
Et big up pour les techniciens, tu vois. Je pose ma question.
Allez, ta question.
Justement, on part sur les contes, etc. Choses qu'on nous a fait intégrer un peu toute notre enfance, etc. Sur lesquelles beaucoup de gens sont revenus en disant le prince charmant. Moi, ça m'a fait marrer. Hein. Elle va trouver le moyen de s'évader pour rejoindre le prince au bal. Ça me fait penser à une espèce de conte.
La Cendrillon.
Tout à fait. Après, il y a plein de. Attends, oh là là, je suis prise en photo en pleine radio.
Ah non, mais c'est merveilleux.
Je suis une vedette. Il ne faut pas oublier quand même. Que...
Je vais poser sa question.
Pardon, mais si, c'est ça.
Ouais, alors, comme tu veux. Non, tu peux répondre à la question que je n'ai pas posée, mais j'en reposerai une juste après. Désolé, Siam.
Bon, je voulais juste intervenir sur le fait qu'on part sur le conte de fées. Il ne faut pas oublier que la princesse a 48 balais.
Ah
donc
oui.
Je veux dire, ça remet un petit peu les choses en place. On n'est pas chez Walt Disney. C'est quand même une princesse qui ronfle et qui pète.
Donc est-ce qu'elle est ménopausée, la princesse ?
Pré-ménopause, attention. Pour être ménopausée, c'est un an sans règles. Donc là, c'est pas tout à fait le cas encore.
Je vois la tête de notre technicien Fabien. Il se dit, c'est n'importe quoi ce plateau.
Quoi, c'est vachement bien.
Mais si, c'est vachement bien.
C'est le côté tragique de comédie tragique.
Voilà.
Et alors, j'ai vu que c'était dès l'âge de 6 ans. Donc ça, c'est important aussi pour les familles, si vous voulez faire venir un peu des familles.
N'y allez pas avec tes bébés de 3 mois.
On n'est pas contre, les enfants. On n'est pas pour, mais on n'est pas contre.
On est neutre.
Non, en fait, on n'en sait rien. D'ailleurs, on va changer ça dès cet après-midi. On va écrire presque tout public.
Presque tout public.
Parce que c'est hyper dur, comme le genre, c'est hyper dur de dire à partir de quel âge. Qu'est-ce qu'on peut en savoir ? Ça dépend des gens. Je veux dire, il y a des gens qui vont avoir 30 balais, ça ne va pas leur plaire. Et des gamins de 3 ans, ils vont s'éclater. C'est hyper dur de dire dès combien. On va dire presque tout public. C'est-à-dire, ça peut te plaire, on n'en sait rien, viens voir. Là, hier, il y avait plein d'enfants devant. J'ai sciemment laissé pour voir qu'est-ce que ça faisait. Mon foie, ça a marché. Et autant, cet après-midi, ça va être un carnage. On n'en sait jamais rien.
Bon, ben voilà, c'était ma question. J'allais demander à Christelle. Et hier, donc, vous avez joué à 17h30. Comment ça s'est passé ? Mais...
Très bien.
Elle a répondu. Donc, tu peux y aller, Ben, pour la dernière question, si tu veux.
Bah, en fait, c'était la suite de ma question à laquelle tu as répondu quand j'ai.
Mais j'ai répondu à toutes les questions avant l'heure. C'est génial.
Tu es absolument magique.
Oh là là.
Et non, avec coucher les cases.
La question que je me pose, c'est l'avis sur. Et pardon d'arriver sur quelque chose de peut-être négatif et un peu politique, peut-être, mais c'est la cancel culture, en fait. Et ce truc où la quoi
je crois que Christelle...
Si, tout à fait, c'est Fred qui n'avait pas compris.
La cancel culture, en fait, et où on essaye de nous enlever des trucs alors que finalement, ça fait partie de nos vies, en fait. Vous en pensez quoi, vous, dans le spectacle, entre guillemets? Est-ce qu'on doit enlever des choses qui sont présentes dans nos vies depuis qu'on est gamin, gamine?
Vas-y, réponds.
Oh, c'est hyper bien. T'as compris la question.
Le mec vient de Florent. De réfléchir.
Et si on parle de scénographie, parce que je trouve que la scénographie sur ce festival est extraordinaire. Et pour moi, il n'y a rien à enlever.
On n'enlève rien. On fait un
boulot. Justement, Christelle,
on n'enlève rien, on en joue.
Voilà. Tu anticipes, parce que c'est le sujet d'après.
Mais je sais. Alors, si vous voulez faire une pause, je prends un peu le plateau. Hein,
mais carrément, moi, je te laisse le micro. Vas-y, c'est parti.
Et nous, on va au quatrième.
Non, sérieusement, j'ai pas compris la cancel. J'aimerais bien comprendre, blague à part.
La cancel culture, c'est enlever des choses qui font partie de ce que nous on a appris parce qu'en fait elles sont discriminatoires et qu'en fait il faut arrêter tu vois par exemple
c'est pour ça que maintenant il y a la Gen Z quoi.
La quoi?
La Gen Z.
Putain, t'as deux adolescents de 16 et 17 ans. Voilà.
Moi, je comprends plus du tout les questions. On va laisser la parole.
Allez, on va s'arrêter là. Merci Fred, merci Christelle.
Merci à vous, merci beaucoup.
Et spectacle à 17h30. Hein.
Oui. Venez, si ça ne vous plaît pas, on vous rembourse.
Ok.
C'est pas payant.
On va partir en musique avec Ondaya, là, qu'on pourra découvrir ici sur le plan à 19h tout à l'heure.
Bom dia, vida tão tacanha. Nada novo, só o sol. Tem que se esconder no escuro que na luz se banha. Por debaixo do lençol, nessa terra dor é grande, ambição pequena. Carnaval e futebol, quem não mente, quem ofende, quem mais goza e pena. É que se ele te falou, existe alguém em nós. É muitos dentre nós, esse alguém que brilha mais do que 1 milhão de sóis. E que a escuridão conhece também. A vida tão estreita, nada de novo a lua. Todo mundo quer saber com que você se deita. Nada pode prosperar. É domingo, fevereiro, 7 de setembro. Futebol e carnaval, nada mundo, todo escuro até onde me lembro. Uma dor que é sempre igual. Existe alguém em nós. É muito dentro de nós. Está aqui que brilha mais do que 1 milhão de sóis.
Donc à découvrir sur le plan à Sumène dans le cas des Transévenol à 19h. Alors Radio Escapade est toujours en direct et en public avec Radio Bartas, Radio Système et Radio Sommière. Et là on va commencer à parler de scénographie puisqu'on a le radeau de l'hypoténuse avec Peggy et Michel qui nous ont rejoints sur le plateau. Salut à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors avant même de parler de ce que vous avez fait ici au Transévenol, est-ce que vous pouvez un petit peu dire aux auditrices et auditeurs et au public, c'est quoi la scénographie?
Oula, tout d'un coup là.
Ah ouais, là d'un coup là, c'est.
On ah, ça vaut chose, bien là. Ça vaut bien la cancel culture. Hein. Ah,
oh, merde, petite pression.
On nous avait pas dit que qu'en milieu rural, il y avait des émissions télo. On était venu pour répondre à d'autres questions. Pourquoi le bleu? Pourquoi l'orange?
Ouais, mais on va y arriver. On va y arriver, Michel.
Alors la scénographie. Alors je vais essayer de. Enfin, je vais. Tu compléteras. On va essayer de donner une définition qui en plus ne sera pas une définition parce que ça touche tellement de comment dire d'activités qu'on pourrait pas le résumer en un seul mot, ou alors je vous lis la définition du dictionnaire, mais en tout cas la scénographie en milieu rural tel que nous on la pratique, ça signifie arriver dans un endroit qui est connu par les habitants qui l'habitent et au fur et à mesure des nuits leur faire découvrir le lieu d'une autre manière en amenant des éléments de décor. Et avec le but du jeu, c'est qu'on fait monter un peu en puissance, c'est-à-dire qu'on construit d'abord toutes les structures de base et ensuite derrière, petit à petit, jusqu'à la dernière nuit où on fait toute la finition. Et donc, on transforme l'espace de vie des gens de manière éphémère et transitoire.
Bah, c'est une super définition. Génial.
Ah, vous avez vu, c'est pas Christelle de la Rosée, là.
Oh, alors, Chantal Lobby, j'avais une question pour te poser.
On sent bien qu'ils se connaissent quand même.
Ça fait des années que vous faites ça.
Alors ça fait beaucoup d'années qu'on fait ça. Ça fait moi un peu plus de 20 ans et Peggy un peu plus de 6 ans.
Sur les trans ?
Sur les trans depuis 3 ans.
Depuis 3 ans, ok. On a remarqué aussi un changement sur la scénographie. Ils sont pas d'accord tous les deux.
Non, on n'est pas d'accord. Non, parce que, en fait, c'est ce que vous avez. Parce que
je pensais
que
ça fait 25 ans qu'elle fait ça. tu déconnes, 3 ans quoi.
Non, parce qu'en fait, Peggy est directrice de production du Radio L'Hypoténuse et moi directeur artistique. Donc moi, tout ce qui est comptabilité, je n'y comprends strictement rien. Dès qu'il y a un chiffre, c'est elle qui.
Ouais.
Et ouais.
Vas-y. Alors,
c'est vrai.
Vas-y.
Tu
oui.
montres. Ah, adorable, Siam. Siam, c'est la meilleure. Juste pour comprendre un petit peu, vous avez changé un petit peu la scénographie. On avait l'habitude de voir beaucoup de choses sur le plan, etc. Là, on a un changement de contexte, on a un changement de lieu, etc. Comment vous avez dirigé en fait cette scénographie par rapport actuellement. Vous comprenez la question ?
Oui, je comprends la question. On en parlait justement sur la route avant de venir vous voir. En se disant que si vous ne nous posiez pas la question, on y répondrait quand même.
Ah, merci bébé.
Non, parce que c'est super important pour nous, justement, la question que vous posez, parce que je crois qu'effectivement, les gens qui sont là depuis, en fait, 4 ans et non pas 3 ans, ont vu le changement dans notre travail. Alors, en vrai dire, ce n'est pas un changement dans notre travail, c'est un changement dans l'approche que le festival a eue envers nous. C'est-à-dire que les Elvis ont décidé cette année de renouer avec la matrice historique du festival, qui était un festival qui avant avait une grosse scénographie. Et c'est très clairement, c'est un choix de leur part. Et on peut le dire aussi, c'est un choix financier de leur part, parce que un petit budget, une petite scénographie, un gros budget, une grosse scénographie. Ouais. Habituellement, nous venions à 2. Cette année, nous avons pu monter à 5 techniciens pendant 15 jours. Et c'est, en fait, c'est ça, c'est un choix artistique de la part du festival. Parce que nous, on peut faire juste une cabane où on peut en faire 50. Et donc, cette année, effectivement, la transformation, elle est venue sur le choix artistique des Elvis qui ont investi considérablement dans la Céno, plutôt que de laisser faire, comme d'autres festivals, une Céno en cagette et en papier crépon.
Oui, et puis des habitudes qui peuvent aussi s'installer, forcément, d'une année à une autre. Peggy, est-ce que tu peux un petit peu...
Alors, attends, juste pour,
Vas-y.
Pour finir là-dessus, on pourrait même faire beaucoup plus. Enfin, là, du coup... C'est une fois de plus au niveau budgétaire, mais au niveau d'ici, installé, en fait, il faut quand même préciser qu'on fait des modules qui, à chaque fois, sont pour le festival. C'est-à-dire que vous n'allez pas retrouver la même scénographie à différents endroits aussi. C'est ce qui est intéressant. On repeint tout, on refait tout, les petits nuages, les flamands. C'est juste pour les Trans-Sevenol cette année.
C'est recyclé.
Ça sera recyclé. Cette année, c'est une création, ça sera recyclé autrement. Oui. Voilà.
Est-ce que vous échangez avec d'autres structures qui travaillent sur d'autres festivals en Garogorie, je pense, en Lozère, etc. Est-ce que vous, je ne vais pas dire travailler avec eux, mais est-ce qu'il y a un savoir-faire et un partage entre ces deux structures-là ?
Alors, ben, c'est le hangar Gogori, c'est des copains, en fait. Hein.
J'imagine.
Et pour dire, c'est qu'au départ, moi, j'étais sur l'équipe Céno du Festival d'Olt, avant que Sophie prenne la relève. Et donc, on a commencé ensemble sur le Festival d'Olt. Et après, une fois qu'eux, ils ont décidé de monter une structure et de se professionnaliser, Oh là, c'est dur, les trucs à quatre syllabes, là, c'est dur, le dimanche. Donc, nous, moi, je suis reparti du Festival d'Hôte, mais oui, c'est des copains. Après, je pense que les gens qui connaissent les deux structures voient qu'on est quand même sur des univers pas très similaires. Ils sont dans des choses beaucoup plus scénographie réaliste, beaucoup plus de décors réalistes, alors que nous, on est plus dans de la scénographie structurelle et architecturale, en fait, quoi. Mais on se voit, dès qu'on se voit, on se saute dans les bras, on se fait des gros câlins et tout.
J'imagine. Et justement, est-ce que vous faites un brainstorming avant le festival en disant OK, on réutilise ça et on va. Non, mais finalement, ça, on change. Comment ça se passe en amont du festival, qu'on se rende bien compte, en fait, comment une scéno se met en place, en fait? Parce qu'une scéno, c'est comme un spectacle de rue. Il faut que ça parle tout de suite, aux festivaliers qui débarquent. Et se faire embarquer dans un espace vraiment en se disant ça y est, j'y suis et je suis content d'y être. Comment vous fonctionnez vraiment en amont pour qu'on comprenne?
Alors en amont, c'est un travail qui est fait avec déjà avec la personne, enfin le festival qui nous accueille en fait. C'est déjà eux qui commencent à nous dire ben nous on aimerait avoir ça ou on aimerait avoir ça. On aimerait avoir on a un bar linéaire de 15 mètres, on a un bar de 12 mètres, on a un stand d'accueil, on a une billetterie, etc. Et ensuite, toujours en accord avec eux, on commence à réfléchir à comment les gens vont se déplacer dans le festival. Et donc, du coup, qu'est-ce que nous, on va pouvoir commencer à mener pour justement que les gens voient la différence entre je viens tous les jours sur le plan Assumène et je viens sur le plan quand c'est les transsémnoles. Donc, d'où la grande porte. Et donc, nous, à ce moment-là, on commence à leur proposer des solutions. On dit, par exemple, on pourrait mettre une porte là. Cette année, on est parti sur le coup de 3 portes. Il y en a une là, une à l'entrée de la mairie et une avant le site du concert. C'était un peu ça le fil directeur. Et après, nous, on s'en va avec nos petits papiers, on fait des notes, on négocie sur la couleur aussi. On se dit, tiens, cette année, on fait quoi comme couleur? Allez, on y va.
Le bleu est...
On ne peut rien te cacher.
Ouais. Il y a un côté un peu politique là.
Oui, parce que nous, on n'a pas de souci avec ça. Nous, on est un collectif de scénographes de droite, hein, donc on n'a aucun problème avec ça. Hein.
Jacques serait content.
Jacques Chirac a signé le livre d'or du radeau de l'hypoténuse.
Je pensais à Jacques Blanc.
Bon, bon.
Old school. Moi, je suis hyper old school.
Et Jacques Blanc nous a financé aussi à l'époque quand il avait la région avec le Front National. On était ravis d'être la seule compagnie de théâtre.
Ah, pas des rétros, ce Thanas.
Vous êtes bien sur RTL, les grosses topiques.
Michel, Peggy, alors Michel, tu parlais des 3 portes à l'instant. Est-ce que vous pouvez un petit peu décrire aux auditrices, aux auditeurs qui sont pas présents, l'univers dans lequel on est, que ce soit sur le plan ou après l'arrivée au parc?
Nous, en même temps, on comprend pas trop ce qu'on fait. Non, c'est un peu la marque du radeau, c'est qu'on aime bien faire des scénographies qui sont un peu... à la fois poétiques, qui sont un peu avec des formes qui rappellent un peu les dessins d'enfants, des formes basiques, de la 2D. C'est là que ça nous différencie, par exemple, du Hangar Gori. C'est qu'ils sont beaucoup dans des 3D, plein de couches de peinture qui sont superbement faites, des patines, alors que nous, on est plutôt brut de décoffrage 2D, un peu dans la mouvance de la figuration libre de Hervé Di Rosa, Combas, etc. Puisque nous, c'est un peu ça qui nous intéresse, c'est un peu la pop culture des années 80. Donc ici, on est un peu dans un univers à la fois onirique, avec des petits nuages, des petites fleurs, du rose, des petits flamants roses, tout ça. Et on se dit, tiens, si les gens, quand ils voient ça, tout d'un coup, pouf, ils arrêtent de penser à leurs problèmes, et puis tout d'un coup, ils peuvent rentrer dans le festival, c'est qu'on aura réussi notre proposition artistique.
Bah écoute, j'avais pas à dire mieux parce que justement, pour finaliser un peu cette interview, quand on arrive au Transsévenol, tu vois, il y a cette ambiance. Et cette ambiance, c'est vous. Et vraiment, nous, quand on arrive ici, on voit les flamingos dans toutes les formes, les bleus de dingue, machin, etc. Et ça met dans une ambiance, ça met dans quelque chose. Et je pense que les spectateurs, autant que les festivaliers, etc., kiffent cet environnement. Et on vous remercie beaucoup. Parce que ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup de travail derrière. Et que ce soit dans la déco, etc., c'est un taf de malade. Et franchement, ça fait plaisir parce que ça donne une ambiance. Et cette ambiance-là, elle nous fait boum-boum, quoi. Donc merci à vous.
Merci.
C'était mignon.
Oh ouais. J'ai tout ému, je ne sais pas si... Mais...
Je suis mignon comme garçon.
Super belle.
Oh là là, je vais pouvoir aller à la sieste. Super apaisé, quoi. Merci beaucoup pour cette remarque.
C'est sincère.
Et en plus, c'est sincère.
Ce qui est rare chez moi.
Merci Michel, merci Peggy.
Il dit qu'il m'aime tous les jours.
Super, merci à tous les deux.
Merci à vous et bon festival à tout le monde.
Ouais, merci.
Au revoir.
On va recevoir le spectacle.
On est à la bourse.
Oui, mais on a eu une coupure de 10 minutes, hein, donc on a du rab.
C'est de la faute à Guillaume. Hein, il est là-bas, regarde. Regarde avec sa casquette et ses cheveux longs là-bas au fond. Là.
Il a été tellement réactif.
Il a été super réactif. Encore un gars des Français qui assure.
Voilà, on va attendre que la compagnie Occiput s'installe.
Tu te calmes.
Pour parler. Merci. Pour parler donc de leur spectacle Full Fuel.
Full Fuel. Allez.
Voilà, donc les filles s'installent.
Ah, la parité un peu, ça fait du bien. Les demoiselles.
Allez Ben, je te laisse.
C'est, tu me laisses me démerder.
Je te laisse le mec là-haut.
Quelle enflure celle-là, je te jure. Alors bonjour à vous Full Fuel. Full.
Bonjour.
Je suis dyslexique, c'est hyper chiant.
La compagnie s'appelle Occiput Compagnie et le spectacle s'appelle Full Fuel.
Ah,
allez,
c'est
Fuel.
Là, on a des meufs qui assurent grave. Et on vous remercie. Bienvenue à vous, en tout cas.
Merci.
Alors, votre petit spectacle qui est à 18h à l'ancienne gare, c'est ça? Je ne dis pas de bêtises.
Ouais, c'est ça. C'est
on va être sur une danse urbaine. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de la compagnie, de ce spectacle? Comment vous êtes arrivé à faire cette créativité autour de la danse? Parce que la danse, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut capter directement par rapport à la musique ou au théâtre. C'est quelque chose de très physique, c'est quelque chose de très visuel. Et j'aimerais savoir comment vous êtes arrivé à cette création. Démerde-toi avec ça.
Bam.
Et allez, voilà. C'est parti.
Alors, thèse, antithèse, synthèse, prothèse. Occiput existe depuis 2012. Cette compagnie elle a été créée par moi-même en Avignon. J'étais toute seule à l'époque et j'ai créé un solo pour la rue avec des sacs plastiques. Et qui s'appelait Biped en notes. Et ensuite, une fois que le travail du solo il a été bien rodé, j'ai invité des copines. Et maintenant, c'est un bébé qu'on porte à plusieurs. Ensuite, il y a eu Soif 1, que j'ai chorégraphié en 2015. Ensuite, il y a eu Full Fuel, que j'ai pensé à la base, mais qu'après, on a co-travaillé ensemble. Et là, sur Full Fuel, on est 4 danseuses et une musicienne. Ensuite, il y a eu Soif 2, le retour, l'année dernière, enfin en 2021.
Ça, c'est de la complémentarité.
Voilà.
C'est bien dans la danse.
Et là, on va partir sur une création pour 2025.
Soif 3.
Le retour 4. Jamais 204. Non, Canicule Club.
Oh.
Faites gaffe, ils ont fait ça avec Transformers, ça marche pas du tout.
Pourquoi ?
Bon, Transformers, 7, 8, 9, 10, voilà, c'est le concept. Mais en tout cas, moi, on n'a pas eu l'occasion de voir vos spectacles, en fait, parce que on est en plateau au moment où vous jouez, malheureusement. Mais on a nos taupes.
Ah,
et nos informateurs, ouais, grave, et qui ont mais absolument kiffé votre spectacle, mais vraiment. Et j'ai plein de questions à vous poser.
Ouais.
Alors, la première, c'est on va parler du rythme, évidemment, et de ce que vous en faites. En fait, comment ça se passe une chorégraphie et comment vous intégrez les rythmes dans votre spectacle et dans la chorégraphie?
Le rythme musical, parce qu'il y a plein de rythmes.
Il y a plein de alors oui, le rythme de la parole, par exemple. On parle trop vite. Mais en tout cas, le rythme chez vous et dans la danse, comment ça se passe chez vous et comment vous l'intégrez dans le spectacle, en fait?
Full Fuel, c'est un spectacle qui est pensé en montée, on pourrait même dire en montée spirale. Le principe, c'est de partir de là pour aller là-haut. Bon, bah, là, on est à la radio, donc on ne le voit pas, mais d'en bas pour aller en haut. C'est une montée, du coup.
Ça marche.
Et du coup, la rythmique globale, qu'elle soit musicale, corporelle, chorégraphique, donc du coup d'ensemble et même de participation avec le public, elle est aussi pensée dans ce sens-là. En tout cas, si c'est spécifique à Full Fuel, voilà.
Après, pour ce qui est du rythme musical, on ne se pose pas tellement la question... le travail de la danse, c'est un travail particulier dans le sens où, en dehors du plateau, on travaille tellement la musicalité du corps que quand on arrive au plateau, on n'a pas à y penser, juste c'est là et on n'a plus qu'à laisser le corps parler. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
Ça marche très bien. Comment vous travaillez avec le public? Parce que vous le mettez un peu, vous le dérangez un peu et c'est quelque chose de. Voilà, bouge un peu. bouge, ça le met mal à l'aise parfois. Comment vous travaillez avec ça, surtout on répète en se disant bon là il n'est pas là, dans la rue etc. Comment vous travaillez avec ça, on répète en se disant bon voilà, on va le bouger et à tel moment ça va être bien, en sachant que ça va le mettre mal à l'aise lui-même. Je parle du public.
On a une super anecdote parce que il y a une des choses de ce spectacle que je ne vais pas dévoiler parce qu'on va pas spoiler. Par rapport au mouvement du public qui s'est essayé lors de la première. Donc en fait le travail en amont, comme tu dis, en se disant hey, peut-être là à ce moment-là il y a pas de public là pour l'instant, mais quand il sera là ça va être super. Ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé que la veille de la première, il y a quelqu'un qui a eu l'idée et on s'est dit c'est génial. Enfin tout le monde s'est dit c'est génial. Moi j'ai dit ah j'ai peur. Et après ça s'est fait. Et du coup,
mais on l'a testé en live avec vraiment des gens, quoi. Et après, la question du malaise, c'est peut-être un retour que tu as eu, mais il y a plein de gens que ça met pas mal à l'aise. Du coup, on s'est pas dit, tiens, on va mettre les gens mal à l'aise.
Oh non, surtout pas.
Non, là juste comme disait Lauriane, on travaille la spirale ascendante. Du coup, il y a quelque chose du public qu'on tisse du début à la fin pour que ça justifie ce qu'on appelle... au public à faire à la fin. Mais que du coup, on a travaillé vachement l'absence de prise d'otage parce qu'on n'aime pas ces spectacles de rue qui font monter un mec tout seul sur scène pour lui demander de faire des trucs qu'il a priori n'était pas consentant, juste il le fait parce qu'il veut bien aider le spectacle, quoi. Nous, on veut vraiment pas prendre en otage.
Bel exemple. Ouais, bel exemple parce que très souvent, on est toujours dans la prise de risque, surtout sur le spectacle vivant. Et en fait, vous avez réussi en fait, à gérer quelque chose de très intelligent. Moi, je trouve, hein, personnellement, que vous ne mettez pas les gens en danger, au contraire, pas danger physique, hein, mais...
Mal à l'aise, en tout cas.
Dans le malaise ou quoi que ce soit. Au contraire, vous les faites vibrer, vous les faites avancer. Vous faites donner une certaine réflexion. Et c'est quand même fort de le faire juste corporellement parlant et visuellement parlant, sans avoir de mots, sans avoir de... Juste avec le corps. C'est juste incroyable. Siam ?
Oui ?
À quelle heure est-il ?
Tout va bien, on a encore 5 minutes.
Ouais. Ah, mais Sim, c'est notre directrice. Alors, bon.
Oh, non, arrête.
C'est la patronne.
Arrête avec ça, Ben.
C'est la présidente.
Vous travaillez avec une musicienne en live qui joue de la guitare, qui est aux machines aussi, qui est sans doute à la composition. Voilà. Est-ce que ça laisse la part belle à l'improvisation ? En fait, une chorégraphie doit être vraiment au timing, etc. Est-ce que ça laisse la part belle à l'improvisation, justement ?
Oui. Bah oui, parce qu'il y a des parties purement chorégraphiques où tout, quand on dit chorégraphie, c'est vraiment de l'écriture du mouvement où on fait en gros tous la même chose, le même mouvement dans le même timing. Après, il y a plein de parties d'improvisation autour de matières avec lesquelles on s'est mis d'accord en amont, avec un début et une fin. Et du coup, à l'intérieur de ça, oui, ça laisse la part belle à l'impro. En fait, le spectacle, il est comme rythmé entre des moments très écrits et la musique et la danse et des moments plus d'improvisation avec une direction commune.
Le spectacle, il parle d'énergie collective et du coup, il y a nous, entre guillemets, au corps, au milieu. Il y a la musicienne, donc Nel, qui est en fait, nous aussi, on est ce groupe-là et le public. Et du coup, ça laisse aussi la possibilité à Nel, du coup, de rallonger, réduire et donc d'improviser ce que tu dis parce que c'est du spectacle vivant, du coup.
Ouais.
Et est-ce que ça veut dire qu'il y a des moments de fin où il y a des signes, où il y a des choses sur la fin de l'improvisation, en fait ?
Elle a des tops, ouais. Elle a des tops sur des gestes, sur des actions, sur... Des fois, c'est nous qui nous calons sur elle, et des fois, c'est elle qui se cale sur nous. C'est souvent ça qui se passe quand même, mais oui, il y a une écoute très forte à 5. On ne considère pas qu'on est 4, on considère vraiment qu'on est un quintet, quoi.
D'où l'idée d'avoir la musicienne, pour le coup, sur scène, en fait, et de se dire c'est un travail d'équipe, en fait, sur le truc. Mais comment, je me demande, en fait, quand on danse, en fait, on peut avoir ce petit regard, etc. Est-ce qu'il y a une leaderuse dans les 4 danseuses
La symbiose, mon pote, la symbiose.
Leader tournant. Leader tournant et puis de l'écoute à fond. Et puis quand tu danses, bah, tu es censé regarder de partout pour prendre toutes les infos de partout autour. Il faut des yeux de partout sur le corps, quoi.
Et c'est un dispositif en circulaire pour ceux qui l'ont vu. Du coup, le public est tout autour. Et de toute façon, si on a envie de croiser les gens du public, on a plutôt intérêt à avoir des yeux de partout. Ouais.
Merci. On peut dire quand même que du coup, la compagnie Occiput joue à 18h à l'ancienne gare.
Venez.
Voilà. Oui. C'est bien passé hier ?
Ouais, super. On avait peur du soleil, mais on est à l'ombre et ça, c'est bien parce que c'est le genre de spectacle que si tu joues au soleil, eh ben, tu meurs.
Oui. Oui. Ouais.
Et puis, je veux rappeler quand même qu'on a des petits gars, des petits bénévoles, meufs et mecs, qui sont là avec les petits sprays pour vous balancer de l'eau en mode rafraîchissement pendant les spectacles, etc. On l'a vu hier avec Monsieur Patrick, oui. Où c'est super cool parce qu'en fait, vous faites ce spectacle et vous avez les bénévoles des Transévenols qui sont derrière oui. aussi pour rafraîchir les gens, etc. Et ouais, ça, c'est quand même super cool.
Je fais une petite dédicace à Arnaud, hein, que voilà. J'ai vu passer plein de fois, qui est passé aussi avec sur plateau radio. Ouais.
Avec sa sulfateuse, voilà. Là. C'est ça.
Je tiens à dire aussi au passage qu'il y a une super équipe de bénévoles et que c'est ouais. hyper agréable de jouer. En tout cas, pour nous, là, hier, c'était une super date. On est super entourés, c'est trop bien.
Grave.
Ouais, je suis humaine, bébé. Attends, tu crois quoi ? Attends, on est au Transévenol.
Merci à
là,
tous les deux.
Là, je dis banco.
Tu dis banco ?
Je dis banco.
Moi aussi, je dis banco.
Merci à toutes les deux. Bon, on va partir en musique avec Lula Held qui est en train de jouer là à 14h30. Je pense que ça a démarré à 2 minutes au Temple, justement.
Ben on se retrouve tout à l'heure à 17h30.
Ouais.
Comme courant d'air, je m'éloigne de la surface de l'ombre. À bout de souffle, je divague sur l'esquisse de mes rêves. Solitude pleine de mystère, gaillardie. C'est un monde qui se coupe en deux, comme une pomme au cœur disséqué. Et c'est deux mondes qui naissent sous nos yeux, encore chargés de ça.
Pour les Transévenols hein, qui jouent en ce moment au Temple. Hein.
C'est beau ce qu'on a entendu là.
Ça, franchement, sans déconner, pendant deux ans, j'étais au paradis.
Ouais, ouais, très très beau. Alors, on se retrouve à 17h30 tout à l'heure pour le dernier plateau des Transévenol. Alors, toujours avec Radio Escapade, Radio Bartas, Système et Sommière.
Il faudrait qu'on monte une radio ensemble. Parce que
mais ouais, je qu'on fusionne en fait.
Il faut arrêter les conneries.
On va peut-être s'en sortir en fait si on fusionne.
Force, mais bien sûr. Attends, c'est dans l'oignon qu'on fait la force.
Bon, alors, qu'est-ce qu'on aura là, les gars, à 17h30
À 17h30, on va avoir Suzanne Bellobré, qui est notre
lauréate.
Lauréate. Ouais. Attends, c'est le tremplin des Transévenols.
Ouais,
s'il te plaît. Suivi de
MPL.
MPL. Donc, avec Erwan, on va se faire un malin plaisir à décortiquer tout ça. Mon copain Erwan. Et puis on aura Safé en concert dans la foulée. Et puis après, on aura Sébastien, Loïc et Léa qui font partie des équipes des Trans. Et on aura une conclusion chronicle. Attention, ça va péter.
C'est Radio Sommière, c'est toi Ben qui a pris ta plume là, je te vois écrire depuis tout à l'heure.
C'est Radio Siam Ben Ben.
Siam Ben Ben.
C'est la nouvelle radio.
Bon,
je suis pas sûr qu'on ouvre de nouvelles fréquences avec Radio Siam Ben Ben.
Mais on sait pas, mais en tout cas, on remercie en tout cas la technique Fabien et Arthur qui ont été super gérés parce que tout à l'heure, on a un gros problème technique suite à une coupure de courant intempestif.
On les a vus courir partout.
Et ils ont été absolument magnifiques comme d'habitude.
Merci à Guillaume aussi.
Et à Guillaume aussi,
bien sûr, derrière.
Et
on se retrouve tout à l'heure, 17h30,
et puis,
sur les ondes.
Elsa, toujours présente, qui nous gère et tout.
Ouais, Eva.
Eva. Attends,
Eva.
J'ai dit
Elsa. T'as dit Elsa.
J'ai une ex.
Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bonne continuation sur les ondes.
Allez, à très vite.
3, bisous. 2, 1, action.
Les Transévenol, 26e édition, c'est 22 et 23 juillet à Sumen. Un festival éclectique et indépendant. Avec en journée des concerts, du théâtre de rue, du cirque, des projections, des débats et des plateaux radio. Compagnie L'Art Osé, Braquage Sonore, Oxuput, le théâtre groupe, La Nour, Charcoal and Sugar, Zictamu, Lula Health, le Coco Fanfare Club et Ondaya. C'est gratuit. En soirée, des concerts et guinguettes au cœur du parc Lucie Aubrac avec Essa Yasuke, Dodeline, Da Trekaz, Suzanne Bellobre, MPL et Safé. Pensez à prendre vos billets sur lestrans.org/labilletterie. Éco-responsable et engagé, les Transévenol, deux jours de concerts, spectacles et rencontres, à Sumen les 22 et 23 juillet.